On est au 10, c'est ça?
Oui.
Donc l'appel qui a été adressé par Akadosh Baruch Hu à Moshe Rabbeinu, il est à partir mais Ohel Moed. Il est à partir de ce qu'on appelle Ohel Moed. En fait, c'est donc Ohel, c'est une tente. Moed, c'est comme les Moadim, c'est comme les fêtes de rendez-vous avec entre Akadosh Baruch Hu et le clan Israël. Donc c'est la tente de rendez-vous, si on peut parler comme ça.
Il appelle des assignations, c'est ça?
La tente d'assignation peut-être, oui. Amar Rabbi Elazar, Afalpi shenitna Torah, Rabbi Elazar dit, bien que la Torah ait été déjà donnée, Siyag l'Israël Mishinaï. Il y a une barrière qui vient du Sinaï. L'onen shual achenishnit be'ohel moed. C'est-à-dire que ce qui a été interdit au Sinaï n'est pas sanctionné tant que ça n'a pas été répété dans le Ohel Moed. Bon, on va comprendre pourquoi on a besoin d'une répétition. Hachem l'a parlé clairement au Sinaï, et voilà, les Bnei Israël, ils ont reçu tout ça. Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas sanctionnés tant que ça n'a pas été redit au à Moshe Rabbeinu dans le Ohel Moed pour qu'il le répercute au Bnei Israël. Machal, alors de nouveau, le Midrash nous amène à un Machal. Le Diotagma, chez Iktuva, dans un document donc, qui est écrit « Umechutemet » est signé « Venichnesa l'emdina » Et ce document, il est entré dans le pays dans lequel, enfin, oyez braves gens, comme dirait quelqu'un de notre connaissance. Et voilà ce que dit le roi, le gouverneur, etc. En bnei amdina ne'enashim alea ad shetitparesh la'en be'dimosia shel medina. Alors, semble-t-il, il y avait une règle. Que tant que la loi n'a pas été, enfin ce document n'a pas été commenté, expliqué dans le Demosia, c'est quoi? C'est l'Agora ou un truc comme ça? Le Demos, c'est le peuple, et Demosia, c'est quoi? C'est...
Il y a notre gréco-machin.
Mais non, mais justement, je n'ai pas, parce que pour changer, bien que ce soit marqué qu'on est connecté, tout ce qu'on veut, voilà. Automatique, avec 4 barres, 5 barres, ou je ne sais pas quoi. Non, on n'est pas. On est en live, je ne sais pas pourquoi.
Alors, ça, on l'a entendu, ça va tout à l'heure.
Oui, mais ça a marché pendant 5 minutes. Ah bon. Après, ça a rendu les plaques.
Bon, on avait besoin d'un helléniste distingué.
C'est moi qui. C'est mon. Ben non, ça, tout à coup, maintenant, il est bon. Peut-être ça va marcher. Oui, on est connecté. La réparation est terminée. Très bien. On va voir combien de temps ça va durer. Kan, Kirsovitch, à l'appel. Ça ne sert à rien.
Allô?
Allô? Vous êtes là? C'est bien.
Oui, oui, je vous entends de très loin, mais je vous entends.
Enfin, on est à Paris, hein, c'est pas... C'est vous qui êtes je ne sais pas où.
Il faut juste rapprocher le micro. Alors.
Ah non, il est aussi proche que d'habitude.
Ah, bon.
Il n'en sera rien. C'est pas vrai, je vais rapprocher quand même. Khan, vous êtes là? Il est jamais là quand on a besoin de lui. On a un truc en grec, là. Oh, oh, bon, visiblement. Pas où il est.
Il y a eu plusieurs appels successifs,
ouais, ouais,
là.
Oui, c'est vrai, mais... Appel aujourd'hui, dans quel sens ça va? 1h19.
Google.
Ah, Jean-Claude, il dit que son micro.
Démos, c'est le peuple, de toute façon.
Oui, mais
c'est la cause de démocratie. Bon, alors vous entendez, vous écrivez, s'il vous plaît. Démosia, c'est quoi? C'est une agora? Qu'est-ce que c'est?
On a Démos.
Oui, Démos, c'est le peuple. Bon, Démosia, bon, c'est la maison du peuple.
Voilà.
La version grecque.
C'est le nom du métallo. Ah, ça recoupe.
Donc, tchouk. Bon. Gatsovitch, Jean-Claude ajoute à la conférence, et bien sûr, on vous ajoutera vos noms. Bonsoir, Raïm. À qui il a dit? Il s'est fait. Ah, Raïm, bien. Aïe, aïe, aïe. Écoutez, je peux faire plus. Bon, en tout cas, c'est ça, c'est la maison du peuple. Et alors, qu'est-ce qu'on a dit ici? Que, voilà, tant que ça n'a pas été expliqué... Alors les gens ne seront pas sanctionnés. Car de la même manière, Afalpish Nitna Torah, l'Israël Missinai, l'onen shualea adche nishnit, lahem beoel moed. D'où est-ce qu'on sait ça? Adaud Irtiv, c'est ce qui est écrit dans le Pasuk, dans Shir HaShirim. C'est marqué Ad She Aviotiv El Bet Imi. Jusqu'à ce que je l'ai amené dans la maison de ma mère. El bet imi ze sinai. El cheder horati, la pièce, la chambre dans laquelle j'ai été conçu, ze oel moed. Chez Misham nitztavu Israël be hora'a. C'est-à-dire, au lieu de prendre horati, qui est l'endroit où j'ai été conçu, c'est, il fait comme s'il y avait un aleph après le reish. Et on fait comme si Bet Horaati, ça s'entend, on n'entend pas le Aleph, évidemment. Horaati, ça veut dire l'endroit d'où la loi est émise. Bon, alors, qu'est-ce que nous dit ici ce... Qu'est-ce que le Machal nous laisse entendre, là, qu'on n'entendrait pas autrement?
C'est une démocratie, donc on peut refuser, quoi.
Semble-t-il, oui. Non, sur le modèle de la démocratie, oui, c'est juste. Ce qui est surprenant, c'est vrai, c'est que ça va à l'envers. C'est au Sinaï que tout le monde était là. Et dans l'Oel Moed, les gens. Oel Moed, c'est moins clair. On n'a pas. Hachem ne parle pas, il parle à Moshe Rabbeinu, ensuite Moshe Rabbeinu le répercute, mais. On n'a rien, il n'y a rien de direct, il n'y a rien de public. Bon, on a l'impression que la démosia où on a amené le document, le décret du roi, ou du prince, je ne sais pas quoi, et qu'on l'a expliqué, explicité, bon, ça veut dire c'est devant tout le monde. Mais, donc la chose avait été écrite dans le secret, disons, ou dans le privé, et on l'amène dans le public. Tandis que chez nous, c'est public, et puis ensuite, on l'amène dans quelque chose qui est moins public, à savoir Oel Moed, c'est moins public, a priori, que le Sinaï. Donc il y a déjà cette leçon là, comme si le Midrash voulait nous dire que non, pas du tout. Que Ohel Moed, ce serait plus public que le Sinaï. Ça s'appelle Ohel Moed, il y a une espèce de rendez-vous, comme s'il n'y avait pas eu de rendez-vous au Sinaï. Hachem s'est dévoilé au Sinaï, mais il n'y a pas la dimension de rendez-vous. C'est rien, je ne peux pas faire plus. Jamais quoi, ça accroche pas. Oui, alors qu'est-ce que vous dites là?
Peut-être que ça leur permet d'être sûr, parce que lors de la révélation du Sinaï, ils ont pu croire une vision ou quelque chose comme ça, alors qu'après ils pouvaient mocher leur répétant et ils pouvaient en parler peut-être ou analyser. Alors, je sais pas, mais. Comme une façon de contrôler les choses, quoi.
Je ne sais pas s'ils sont là ou pas. Là. J'arrête pas de vous appeler, mais ça ne tient pas. Je ne sais pas pourquoi. C'est un passage dans Shir HaShirim. On va le lire.
Il est là. En français.
Ah, en français. Bon.
Non, je ne sais pas.
Je sais pas si j'arrive. Si, je ne sais pas comment ils ont traduit. 3, 4. En tout cas. rôle de traduction. J'ai presque désespéré, quoi, de trouver ce que je voulais, jusqu'à ce que je l'ai. Je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. Ils m'ont trouvé, Moshe et Aaron, les gardes patrouillant dans la ville. Avez-vous celui qui aime mon âme? Il a dit, à peine les avais-je quittés au temps de Joshua, que je trouvais celui qui aime mon âme. Je le saisis, déterminé à ce que jamais mes actions ne me le fassent à nouveau lâcher, jusqu'à ce que j'ai amené sa présence, donc, c'est ça, il dit ici, j'ai amené sa présence, El Bet Imi, dans la maison de ma mère, qu'ils ont traduit par le tabernacle, de ma mère, et dans la chambre de celle qui m'a conçu, d'accord? Et là, on a le jeu de mots sur Orati et Orati, c'est-à-dire, Ora, c'est là, avec... C'est la conception. Hevav Reish, c'est conception. Et Reish Aleph, c'est Hora'a, c'est dire la loi, la Hora'a. Comme Horayot, oui. Donc c'est la fiancée. Il dit que bon, je ne lâcherai plus Hachem jusqu'à ce que je l'ai amené dans, qu'il présente dans le tabernacle et dans la chambre de celle qui m'a conçu. Alors c'est le Helmoed ici. Oui.
Est-ce qu'il ne faut pas chercher dans justement le terme même de Oel Moed? C'est-à-dire ici, c'est la convocation réelle.
Justement, c'est... Oui, c'est Skype, mais ici ils disent que ma version n'est pas mise à jour, je ne sais pas.
Ah, il faut peut-être mettre la version à jour.
Quoi?
Il faut mettre la version à jour.
Ben oui, mais je ne savais pas qu'elle n'était pas à jour. Et puis en plus, jusqu'à présent, elle a toujours été à jour.
Ben, c'est peut-être que quand
je... Je crois qu'en fait, ça s'est peut-être mal, c'est pas ici.
Bon, écoutez, on ne peut pas faire plus. Donc ça veut dire qu'il y a une différence. Il y a donc deux niveaux. Il y a un niveau qui s'appelle la halakha, qui est, où on dit la halakha, et puis il y a un niveau qui s'appelle le maasé. Il y a un niveau qui dit que non seulement on vous a clairement dit ce qu'il fallait faire, mais en plus maintenant vous passez à l'acte. Vous devez passer à l'acte, et si vous ne passez pas à l'acte, alors vous serez sanctionné, parce que maintenant on vous a dit les choses. Alors, la vérité c'est comme ça, que dans la Gemara, dans tous les inyanim, tous les sujets qui traitent de Kodashim, pour pouvoir sanctionner, il faut toujours que ça ait été dit deux fois. Mais c'est déjà deux fois dans le texte de la Torah. C'est pas spécialement une fois au Sinaï, une fois au... Mais la répétition. C'est-à-dire que, au niveau de... C'est comme si, dans tout le domaine du Beth Amikdash, si vous voulez, le fonctionnement du Beth Amikdash, les mitzvot, elles ont, pour qu'on les sanctionne un manque au niveau des mitzvot, il faut l'avoir, il faut que ça ait été dit deux fois. Une fois, c'est comme si c'était, une fois c'est un conseil, et puis après, le deuxième, c'est impératif, là maintenant il faut que tu le fasses. Ici, c'est pas dit exactement de cette manière-là, ici on dit pas que enfin, ou alors, il faut considérer justement que le Sinaï et le Ohel Moed sont justement dans ce rapport de... Au Sinaï, c'est la Halakha, et dans l'Ohel Moed, c'est le Maasé. Alors, ce qu'on pourrait dire, c'est que, effectivement, l'Ohel Moed, c'est le Sinaï portatif, d'après le Ramban. Le Ramban, il dit que le tabernacle, c'est un Sinaï qu'on prendrait avec soi. Donc on pourrait très bien dire qu'au Sinaï, la montagne, à ce moment-là, ils ont fait une expérience extraordinaire, il y a un dévoilement, ils ont compris des choses et des formes fantastiques. Mais après, concrètement, comment est-ce qu'on redescend ça dans la vie courante, en quelque sorte? Dans la vie courante, eh bien, on a besoin d'un Sinaï qui ne soit pas exceptionnel, mais d'un Sinaï qui soit quotidien. Ce Sinaï quotidien, c'est Ohel Moed. Et donc... Les choses ont dû être dites une fois au vrai Sinaï, à la montagne Sinaï, et puis ensuite, dans ce qui représente, dans la représentation du Sinaï, et à ce moment-là seulement, il y aura une sanction, ça veut dire que on a descendu les choses au niveau de la pratique. Maintenant, il faut faire les choses telles qu'elles ont été dites au Sinaï. Maintenant, c'est comme si maintenant on les entre dans la vie courante, quoi. On les intègre au quotidien. Et au quotidien, hein, il faut le faire, c'est impératif dans le quotidien. Ce que je ne comprends pas très bien, c'est... Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le Machal qu'il n'y a pas dans le Nimshal? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on n'a pas osé dire sur le El Moed? Et on a profité de le dire sur le machal. C'est à ça que sert le machal. Une parabole, elle sert justement à ça, n'est-ce pas? Elle sert à pouvoir dire, dans un cadre profane, si vous voulez, dans le cadre grec, là, de la Médina, le roi, etc., des choses qu'on aurait voulu dire, mais qu'on n'ose pas dire, peut-être par respect ou pour une autre raison, qu'on n'ose pas dire sur le Ohel Moed lui-même, sur le Sinaï et l'Ohel Moed. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose de plus qui est dit dans le Machal, qui n'est pas dit ensuite dans...
Ce serait la différence entre Paresh et Nishnit, alors
Oui, il y a cette différence parce que quand on dit nishnit, ça veut dire on a répété. Mais on n'a pas expliqué plus. Parce que si on dit qu'on a expliqué plus dans l'Ohel Moed, alors c'est comme si le Sinaï était incomplet. C'est comme si ce qui s'était dévoilé au Sinaï n'avait pas été aussi bien expliqué, si on veut, que ce qui allait se dévoiler dans l'Ohel Moed. Donc, quelque part, ce Sinaï qui était extraordinaire, ici, ce Midrash-là, il a l'air d'en faire une lecture un peu critique, puisque on n'ose pas dire, dites paresh, on n'a pas voulu dire que dans l'Ohel Moed, la chose a été expliquée, explicitée. Alors qu'on l'a dit dans le Machal. Donc ici, il y a une espèce de critique de ce qu'a été le Sinaï. Peut-être que le Sinaï, justement, étant donné que ça a été donné de façon tellement publique, avec son et lumière et tout, du coup, on n'a peut-être pas pu déployer les choses comme elles auraient dû être déployées. Parce qu'il y a déjà un déploiement. Si vous vous souvenez, on a dans le récit des Aseret HaDibrot au Sinaï, c'est marqué qu'Elohim a dit Kol HaDvarim HaEle. Et après, c'est marqué Anochi. Et donc, la lecture que font Chazal, c'est que, en réalité, au Sinaï, ce qu'il y a eu d'abord, c'est qu'Hachem a dit les 10 commandements en même temps. Les 10 paroles, il les a toutes dites en même temps. Donc, on n'a rien compris. Mais il fallait qu'elles aient été dites en même temps pour bien montrer l'unité, pour montrer qu'il n'y en a pas une qui est plus importante que les autres. Tout est dit en même temps. Alors que, évidemment, que quand on va déployer, on est obligé d'en mettre une devant, une deuxième en deuxième position, etc. On ne peut pas tout dire à la fois. Quand nous parlons, mettons, même si on veut dire des choses en même temps, on est obligé de dire, voilà, je dis ça et ça, ben, il faut que tu les entendes comme si elles avaient été dites toutes en même temps. Mais on n'a pas de moyen de parler, même ni d'écrire, en disant les choses en même temps. Hachem, qui voulait dire que ça doit être dit en même temps, ça veut dire d'une certaine façon que quand si on n'a pas tout en même temps, alors chacun des éléments est en état de manque. Parce que chacun a besoin d'avoir été dit en même temps que les 9 autres. Et ça, Hachem nous l'a donné, mais ça, on ne pouvait pas l'entendre. Et puis ensuite, quand il a déployé, quand il a dit Anochi, puis ensuite Lo Yilecha, etc., puis ensuite Shabbat, et Kibouda Vahem, etc., Lo Tirtzach, etc., à ce moment-là, ça a manqué d'être en même temps. Et ça a manqué d'autant plus que les Bnei Israël ont fait une distinction entre les 2 premières et les 8 autres, puisque les 2 premières, ils ont entendu directement d'Hachem. Puis ensuite, ils ont dit à Moshe Rabbeinu, d'abord, c'est toi qui vas parler, toi tu écoutes ce qu'Hachem dit, et tu nous le transmets. Nous, on ne veut pas entendre directement la parole d'Hachem parce qu'on en meurt. D'accord ? Mourir et ressusciter, etc. On ne veut pas. On a déjà, ça suffit. On a déjà donné, on a fait 2 fois, ça suffit. Alors, peut-être que c'est ça l'idée, c'est que finalement le Sinaï n'aura pas été aussi explicite que ça aurait dû être, en fait. Ça ne pouvait pas être autrement, peut-être. Ne pouvait pas être aussi explicite qu'on voulait. Et du coup, il a fallu le redire. Il faut le redire. Et c'est seulement dans l'Ohel Moed que ça sera vraiment bien expliqué.
C'est aussi le rachis sur une bêtise qui m'a arrêté, mais sur le début de Parashat Mishpatim, quand il dit que ça doit être comme une table redressée, c'est ça que...
Ça là-bas, on fait un procès d'intention à Moshe Rabbeinu. Mais surtout, tu n'imagines pas que tu peux leur donner le kitsur Shulchan Aruch, quoi. Ou le Shulchan Aruch, simplement. Il faut que tu leur donnes toutes les explications avec tous les psukim et toutes les mishnayot, toutes les gmarot, etc. C'est pas tout à fait comme ça, c'est-à-dire là-bas c'est.
Mais dans le Moed, la parole, la répétition n'a été dite qu'à Moshe Rabbeinu.
Alors, Moshe Rabbeinu l'est mort, pour qu'il le dise.
Est-ce que la répétition elle était utile? En quoi elle était utile à Moshe Rabbeinu en fait? Si c'est une explication supplémentaire. Est-ce qu'elle était utile à Moshe Rabbeinu?
Parce que peut-être que justement, Moshe Rabbeinu, il ne l'explicite pas. Moshe Rabbeinu, ce n'est pas la Torah chez Balpé. Moshe Rabbeinu, c'est la Torah chez Birtav. Donc ce que Moshe Rabbeinu dit, il dit ce qu'Hachem lui a dit. Et donc si on dit qu'il en a dit plus dans El Moed, au Bnei Israël, à partir de El Moed, c'est qu'il avait reçu plus. Peut-être que lui aussi, il a reçu plus au El Moed qu'il n'avait reçu au Sinaï. Ce qui est un peu compliqué parce que le Sinaï, il était 40 jours pour aller l'emmener à la Torah chez Balpé aussi.
Mais plus de quoi, la Torah chez Birtav?
Oui, elle est plus explicite, elle était plus... La Torah telle que nous l'avons, c'est sûr que... Qu'est-ce qu'on a dans Aseret HaDibrot? Ce qu'Hachem a dit, c'est Aseret HaDibrot au Sinaï. Alors même si Rav Sadia Gaon, il explique que dans Aseret HaDibrot, il y a toutes les mitzvot, et là, je peux l'entendre justement, il y a toutes les mitzvot, mais de façon non explicitée. Par contre, dans l'Ohel Moed, Hachem lui a donné les 613 mitzvot. Il ne lui a pas donné 10 paroles, puis il explique. À chaque fois, il leur a donné cette mitzvah et cette autre mitzvah, 613 mitzvot. Alors c'est vrai, mais donc ça veut dire que quelque part, c'est vrai que dans le Sinaï, étant donné qu'il y avait ce contact avec Hachem, le contenu était beaucoup plus compact. Et du coup, moins facile à comprendre. On peut dire comme ça que la Aseret HaDibrot que nous on a reçue quand c'est déployé, on a seulement déployé ce qui avait été dit de façon complètement compacte, en un seul souffle, si on peut parler comme ça. Mais on n'a pas plus expliqué. C'est pas sûr du tout peut-être que le Smidrash y pense comme ça. Je ne suis pas sûr du tout que les Bnei Israël ont entendu au Sinaï 613 mitzvot. Ils n'ont pas entendu 613 mitzvot, ils ont entendu Aseret HaDibrot. Oui, potentiellement, puisque Rav Sadia Gaon l'a fait, c'est les Hazarot, vous avez appelé ça, oui. Parce que vous lisez à Shavuot l'après-midi, les Sfardim, ils lisent à Shavuot l'après-midi des Hazarot. Oh. Ils lisent des Hazarot, c'est-à-dire, en fait, ils lisent, je crois, le travail qu'a fait Rav Sadia Gaon pour montrer comment toutes les mitzvot dérivent des Aseret HaDibrot. Je n'ai jamais regardé en détail, mais on m'a expliqué que c'était ça qu'on lisait Shabbat après-midi dans le synagogue Sfarad. C'est ça, Michel? Tu connais ça, toi? Tu connais pas ça? Trop Ashkenaz, ouais. Alors comme ça irait. Il y a encore un point qui est intéressant, c'est que sauf que en ce qui concerne le El Moed, on se permet pas de dire Nit Paresh, on dit vraiment Nishnit. Nishnit, c'est comme une Mishnah, on l'a dit deux fois. Chénit, Nishnit, Schneim. De nouveau, ça repart. Alors, ce qui n'est pas très clair, c'est. Vous voyez, au tout début, c'est marqué Meoel Moed, Amarabi Elaza, Afalpi Shenitna Torah, Siag, l'Israël, Misinaï. Un Siag, c'est une barrière. Donc, on leur a donné des barrières au Sinaï. On a l'habitude de dire que Siag, c'est des Rabbanan, comme dans Pirkei Avot, Asu Siag la Torah. C'est en fait des rabbanades qu'on fait pour que des barrières pour qu'on tombe pas dans le trou de la Avera. Alors vous avez dans la note en anglais, là, la note 4, regardez. Dans la note 4, ils disent que... Bon, ce que MK dit là, c'est complètement défini et ne manque en rien du tout. C'est-à-dire que, évidemment, ce qu'il veut dire ici, c'est que c'est ça le problème qu'on a soulevé. On est en train de dire, le Midrash, il est en train de dire que au Sinaï, il manquait quelque chose. Il manquait le pas complètement défini, etc. Alors, on a dit siag, c'est-à-dire on a pris la précaution de dire qu'au Sinaï, c'était complet. Mais malgré tout, donc on voit très bien que c'est ça qu'on n'osait pas dire. On n'osait pas dire que c'était incomplet. Alors on a commencé par dire, bien sûr, au Sinaï, il n'y a rien manqué. Malgré tout, j'avais quand même besoin d'en passer par l'Ohel Moed. D'accord ? Et comment est-ce qu'on l'a dit ? Ben, on l'a dit justement, c'est que on n'est pas sanctionné tant que ça n'a pas été explicité. Et donc il y a un manque d'explicitation dans le Sinaï, qui lui est compensé par... Ouais, compensé. Alors maintenant, il y a encore un point qui est, pourquoi est-ce que ça a à voir avec la sanction ? C'est-à-dire, on ne peut pas sanctionner si ça n'a pas été explicité. C'est ça l'idée.
Qu'est-ce qui manquait au Sinaï ? Il était trop compact.
C'est ça ? Oui, c'est ça. J'ai l'impression que ce qu'on a fait, on a seulement ouvert le fait que toutes les paroles étaient en même temps. Donc on a mis de l'air et on a fait apparaître 10 paroles. Mais ces paroles-là, elles sont ultra riches. Puisque d'après Sadia Gaon, de ces 10 paroles-là, je déduis les 613 mitzvot. Donc si vous voulez, vous avez 10 paroles et vous en déduisez, ça veut dire que chaque parole est en gros, chaque parole est riche de 60 mitzvot. D'accord ? Il y a 10 paroles, donc pour avoir 613 mitzvot, donc chaque parole, c'est un gros 60 mitzvot. Alors, est-ce que donc, quelque part, c'est vrai qu'il ne manquait rien. Mais peut-être que ce n'était pas suffisamment aéré, ou suffisamment déployé pour qu'on puisse comprendre.
Je ne sais pas comment je le ressens lorsqu'on commente l'expérience des Hébreux au Sinaï. C'est une expérience qui semble être une physique spirituelle, certes, est tellement puissante que c'est pas vraiment, il ne semble pas que ça soit le lieu ici de la réflexion, de la compréhension. On est là, on est presque pétrifié, on comprend à peine peut-être même justement ces paroles, puisqu'on c'est tellement puissant qu'on rend l'âme. C'est pas vraiment un contexte approprié pour réfléchir au fond. C'est pas le lieu, je pense.
Bon, c'est pas seulement que c'est pas le lieu pour réfléchir. C'est pas un lieu où les choses sont assez clairement explicitées. Parce que dans le Demosia, je suis pas sûr que les gens pouvaient vraiment en discuter. Mais on l'a dit, on l'a explicité là-bas. On va vous dire ce qu'il y a dedans, on va tout vous lire, détailler les choses complètement. J'ai l'impression que, enfin pour moi c'est un peu ce que je vous ai dit au départ, j'ai l'impression que la Torah, la parole d'Hachem, elle est une. Et puis il va falloir, pour la faire entrer dans le monde, il va falloir la faire séparer, cette espèce de inséparable. Quelque part, il va falloir que Hachem lui-même nous le sépare. Nous, on ne sait pas le faire, mais au moins, lui, il doit le séparer en 10. Une fois qu'il l'aura séparé en 10, on saura faire le reste, probablement, parce que Rav Sadia fait. Sadia Gaon, oui. Lui fait. Il dit, voilà, à part de ces 10-là, je vais te dire les 613 mitzvot. Donc, cette partie, on peut faire à partir du moment où on nous l'a séparé en 10. Et tant que ce n'est pas séparé en 10, on n'y comprend rien. Et c'est Hachem qui a décidé de séparer en 10, quand il l'a parlé à Moshe. Il a parlé au clan d'Israël, et les béné Israël disent, oh, non, on ne peut pas, même ça, on peut comprendre, en fait, quand ils disent, on va en mourir, parce que c'est tellement riche, bon, si chaque parole d'Hachem est en quelque sorte 60 mitzvot, c'est tous azimuts dans chaque... ça nous prend complètement dans chacune des paroles de 60 façons, en quelque sorte. Et comme on dit, comme le Gaon dit que quand il y a une mitzvah, c'est en réalité tout un monde à soi tout seul. Donc c'est les 60 mondes, quoi. C'est énorme. Donc c'est peut-être pour ça qu'ils ont dit, non, on en meurt parce que c'est tellement bouleversant, ça nous attaque de tous les côtés. Les deux premières, les Anochi Lo Yelcha directement d'Hachem, et Lo Yelcha, je suis l'Éternel qui t'a fait sortir, tu n'auras pas d'autre Dieu, ça ils ont entendu directement d'Hachem. Ils sont morts, ressuscités. Deux dixièmes. Et puis ensuite, ils ont dit à Moshe, alors, qu'Hachem te parle à toi, et toi tu nous parleras à nous. Ils ont eu Moshe Rabbeinu comme intermédiaire entre. Pour atténuer la chose.
Alors, dans ce cas-là, pourquoi on dit qu'il a dit que Hachem a dit les 10 paroles?
Non, il les a dites. Mais il n'y a que Moshe. Non, d'abord il les a dites toutes en une seule fois.
Et après il a déployé.
Oui. Non, je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça qui justifie la nécessité, l'utilisation d'une parabole. Machal, c'est parce qu'on ne pouvait pas dire ça. On ne voulait pas dire cette forme, malgré tout, d'imperfection au sens, en tout cas, de la pédagogie ou de la capacité pour ceux qui reçoivent cette Torah de la recevoir.
Et en même temps, là, dans le passage de Shir HaShirim, on a l'air de dire que ce qui manquait, c'est pas simplement qu'on va les déployer de 10 en 613, mais que ce qui manque, c'est le niveau aura.
Oui, parce que.
Donc c'est aussi pas simplement l'énoncer, mais aussi. Enfin, ouais, c'est ça, ça va plus loin. Enfin, c'est
non, parce que le problème, c'est qu'il n'y a pas d'aura si vous dites des choses trop générales.
Oui,
donc la Gemara, elle dit. Il n'y a pas de makot sur lave chez Beklalot. C'est-à-dire, quand un lave, normalement quand on transgresse quelque chose qui est un lave, il y a des makot, oui, il y a des coups. Alors, si le lave en question, c'est un lave qui couvre plusieurs sujets, il n'y a pas de makot. En lokin al lave chez Beklalot. Un lave qui joue le rôle d'un klal, et pas de pratim. Un lave, ça doit être un prat. S'il devient un klal, s'il englobe plusieurs choses, on ne peut pas sanctionner. Donc il y a bien cette même idée, justement. C'est tout à fait ça. C'est que si c'est un klal, comme les 10 paroles étaient des klalim, on ne pouvait pas les sanctionner.
Est-ce qu'on pourrait dire que l'Israël, il est au même l'équivalent à. Donc un enfant, parce que donc avant la bar mitzvah, l'enfant n'est pas bar chin, ici aussi, jusqu'au matin de Torah, il est reçoit les mitzvot, mais il n'est pas sanctionnable. Mais à Oued Oued, il devient sanctionnable, donc il devient adulte, comme l'enfant.
C'est juste après, quoi.
Ouais. Donc ils n'ont pas le temps de.
Non, alors, est-ce qu'il y a aussi cette idée-là? Donc, qu'est-ce que nous dit le pasouk de Shir HaShirim? Il est en train de dire que le Sinaï, c'est la chambre de ma mère. La maison de ma mère. Ça veut dire, c'est la maison dans laquelle je vais pouvoir être conçu, grandir, etc. Mais c'est trop vaste. Dans la maison de ma mère, il y a la cuisine, il y a la salle à manger, il y a le salon de la télévision, il y a tout dans la maison de ma mère. Ouais. Il y a aussi le sauna, la salle de bain, etc. Tout ça dans la maison de ma mère. Ouais. Mais
pourquoi de ma mère et pas de mon père?
Bon, écoute, ces remarques antiféministes, d'accord. Voyons. D'accord. Alors, et, par contre, le Ohel Moed, c'est vu ici comme la chambre. Eux, ils ont traduit par la chambre of my teaching, mais le Orati, ça ne veut pas dire teaching, dans le Pasuk. Comment ils ont dit? Ils ont traduit ça directement comme ça?
Non, teaching, ça se...
C'est la drasha d'Ora. Oui, mais... Non, parce que dans Shira, au début, en haut, là-bas, ils disent que... Ils lisent directement... Ah, oui, c'est marqué en bas, dans le 1. That conceive me. Donc, ils ont traduit directement d'après la drasha, comme s'il y avait l'aura.
C'est dommage, parce que...
On perd. Parce que ce qu'on veut dire, justement, c'est que l'endroit où j'ai été conçu, c'est pas n'importe où dans la maison de ma mère. C'est dans la chambre à coucher de ma mère. C'est là que j'ai été conçu. J'ai pas été conçu n'importe où dans la maison. Donc ça veut dire le Sinaï, c'est la maison, et le Ohel Moed représente le lieu de la conception. Alors ce qui est intéressant, c'est que c'est la conception qui apparaît comme le mot avec lequel on va dévier sur l'enseignement, ils ont appelé ici teaching, mais la Hora'a. On n'a pas l'impression que la conception, c'est encore en amont aussi par rapport à la... J'aurais dit que c'est encore en amont par rapport à la Hora'a. C'est sûr que par rapport à la maison de ma mère, c'est beaucoup plus pointu. C'est plus précis. Donc par rapport à la princesse qui est née, qui est là maintenant, qui regarde en arrière... C'est-à-dire, je vois la maison, la chambre où j'ai été conçu, je vois la maison de ma mère, je vais faire entrer le fiancé d'abord dans la maison de ma mère, et je vais même l'amener là où j'ai été conçu, c'est-à-dire je vais le laisser entrer dans mon intimité la plus intime. Là, il va entrer là où j'ai été conçu. Donc, c'est ça qu'elle veut dire, je vais faire entrer le fiancé dans la chambre à coucher, en fait. C'est intéressant parce que, quelque part... On pourrait se demander pourquoi le fiancé devrait-il entrer dans la chambre où la fiancée a été conçue. Parce que même si après ils vont se marier et qu'ils vont concevoir, il va pas reprendre obligatoirement la maison en question. Je vais le faire entrer quoi dans mon intimité. Je le lâcherai pas. Qu'est-ce qu'elle fait? Je veux dire dans l'idée. Et de dire que je comprends bien que c'est plus général la maison que la chambre. D'accord? Et donc je comprends bien que le Sinaï est plus général que l'Ohel Moed, d'après ça. Mais c'est un grand chidouche de dire que mettre la conception. Alors évidemment, si tu dis tout de suite que c'est l'enseignement, c'est sûr que l'Ohel Moed, c'est le lieu à partir duquel Moshe Rabbeinu a donné son enseignement. Il a reçu l'enseignement d'Hachem, il le recevait d'entre les Krouvim, là, et puis ensuite, il sortait et il enseignait au Bnei Israël, avec dans l'ordre, d'abord à Aaron, ensuite à ses fils, etc., comme le Midrash le raconte.
Mais oui, mais si elle parle de la chambre où elle a été conçue avec pour en faire entrer son fiancé, elle est justement un peu dans une idée de répétition. C'est-à-dire qu'ils vont maintenant, eux, refaire ce qui s'était fait au niveau de leurs parents et tout ça. Donc on est dans une schéna, je ne sais pas quoi, une mishnah.
Ah, ben c'est très bien ça.
Ça va avec Nishnit.
On va recommencer.
Mais il n'y a pas besoin de l'hypage ici. D'explication. Parce que répétition,
non, c'est pour ça qu'ils ont traduit que ce n'est pas une répétition. Ils ont traduit teaching. C'est enseignement. C'est pas la répétition simple. C'est un enseignement. Tu répètes, mais tu vas le lire, tu vas le développer, tu vas l'étudier. Les Mishnayot, ça s'étudie aussi. Ça. La Mishnah, c'est pas seulement la répéter.
Oui, la théorie mise en pratique, c'est un peu ça. Quelque part, puis la conception, ensuite la naissance. Donc, c'est
intéressant que l'enseignement est comparé à une conception. C'est pas tellement évident. Mais qu'est-ce que ça veut dire alors? Si on faisait un petit effort pour passer de la conception à l'enseignement. Est-ce que d'enseigner, si vous voulez, c'est un mode de conception des choses dans la mesure où elles vont être, je les conçois à l'intérieur de mes élèves, quoi. Que mon cher Rabbeinu, la transmission aurait quelque chose à voir avec une conception. Pour l'élève, c'est une conception. Lui va devoir la faire grandir comme quelque chose qui n'est que à l'état conçu. D'abord, c'est un embryon.
Comme une graine qui doit pousser.
Oui. Il faudra vraiment.
Les toldot de l'homme, c'est pas assez.
Ah non?
Les toldot de la génération de l'homme, c'est pas assez les élèves. On apprend dans.
Oui, d'accord. Oui, mais toladot. Oui, tu as raison. Mais oui. Oui, mais là, on parle de l'enseignement lui-même. On appelle conception l'enseignement. Je dis que la transmission, ici, c'est. Cette conception-là, elle joue le rôle d'une. Alors que mon cher ami est en train de transmettre en déployant la Torah, ce qui se passe, c'est que. Il reste quelque chose qui est non déployé, ça va être Alakha le Moshe Mishinaï, par exemple. Alakha le Moshe Mishinaï, c'est non déployé. C'est pour ça qu'il n'y a jamais de machloket sur une Alakha le Moshe Mishinaï, parce qu'on n'en discute pas. Ce n'est pas un objet de discussion. On ne peut pas encore en discuter, parce que c'est presque à l'état brut, quoi. Et donc, c'est pas encore suffisamment développé. Et ça ne sera jamais développé parce que c'est resté comme ça, hein, directement. Mon cher Rabbeinu nous l'a donné, il a reçu le Sinaï, il l'a donné tel quel. Et peut-être ça vient du Sinaï. L'Akha Moshe mis Sinaï, en fait. Alors c'est vrai que tout vient du Sinaï. Parce que le reste ne serait pas une répétition. C'est ce qu'on a dit dans le Parchat Mishpatim. Afele mis Sinaï. Les Mishpatim aussi viennent du Sinaï. D'accord? Donc tout vient du Sinaï, mais va être ensuite explicité. Donc on peut revenir sur ce que vous disiez, que peut-être effectivement cette histoire de début de Mishpatim a à voir avec notre affaire. C'est-à-dire qu'on a dit à Moshe Rabbeinu, il faut que tu l'explicites là. Et moi j'avais toujours pensé que c'était une espèce de procès d'intention insupportable qui est fait là à Moshe Rabbeinu. Tu ne t'avises pas de leur donner les choses comme ça. Mais peut-être que à la limite, Moshe Rabbeinu aurait pu le faire sans qu'il n'y ait rien de méprisant, mais il dit, moi je leur donne le Sinaï. Je le donne tel que je l'ai entendu du Sinaï. Et là, on lui dit, attends, ça vient du Sinaï, mais à toi de bosser. Tu vas bosser pour que ça soit complètement ouvert, comme la table, elle va être complète, tout est immédiatement comestible. Au Sinaï, c'était pas comestible. C'était bouleversant, mais pas du tout comestible. J'ai Torah chez Baal Pé, mais c'est dans la Torah chez Baal Pé, c'est la partie qui se traite comme la Torah écrite, puisqu'on ne peut pas la discuter. Le propre de la Torah chez Baal Pé, c'est qu'on peut discuter. C'est pour ça qu'elle devait rester orale. Parce qu'elle, il faut qu'elle puisse évoluer. La Torah Shebirtav, elle n'évolue pas. On s'en tient à la lettre, vous voyez. Si tu dis que la halakha de Moshe Mishina, elle n'évolue pas non plus, elle ne discute pas non plus.
C'est comme s'il y avait des louchotes de la Torah Shebalpé, quelque part.
Oui, comme si on avait écrit. Oui, tu veux dire. Oui, je veux dire, c'est ce qui ressemble le plus à la Torah Shebirtav dans la Torah Shebalpé. Comme tout le reste de ce qu'on a reçu de mon cher Abinou.
Mais ce qui nous reste, c'est chez Birtav, c'est la Torah.
Oui, sauf que oralement, il s'est transmis aussi en parallèle à la faute le Moshe Mishinaï.
Mais on ne sait pas.
On ne sait pas comment. Ça, on ne sait pas. Je crois même qu'il n'y a pas de. Ça ne se discute pas. Pardon ?
C'est-à-dire que toute la loi orale.
Non, pas du tout. La loi orale.
Elle
s'est transmise par Moshe Rabbeinu. Moshe Kibel Torah Mishinaï, Moussara Yoshua. Ce n'est pas la Torah écrite qui l'a transmise. On n'avait pas besoin de la transmettre, elle était écrite. La transmission de la Torah dans Pirkei Avot, c'est Torah chez Balpé, ce n'est pas la Torah chez Birtav. On n'est pas en train de dire qu'il lui a donné le parchemin de la génération à l'autre génération.
Donc en fait, ici,
sont tous dépositaires de la Torah chez Baal Pé.
C'est Moshe qui l'a donné. C'est pas eux qui ont.
Non, mais il leur a donné des choses qui n'étaient pas développées. Moshe, il donne des choses qui ne sont pas développées.
Il a donné les clés pour ouvrir les portes, mais il n'a pas donné.
Et du coup, la preuve, c'est que quand il est à l'école de Rabbi Akiva, il ne comprend rien, Moshe Rabbeinu. Bon, vous connaissez l'histoire. Donc il ne comprend pas. Et qu'est-ce que lui dit Rabbi Akiva? Tout à coup, au milieu, Rabbi Akiva, il dit, mais c'est Allah Khal Moshe Mishinaï. Un élève qui lui pose la question. Et du coup, Moshe Rabbeinu comprend. Comment il a pu comprendre? Parce que, on lui a donné les deux côtés de, si on lui dit c'est Allah Khal Moshe Mishinaï, et qu'on lui dit l'état actuel, ça il savait faire, Moshe Rabbeinu. Mais s'il ne connaît que l'état actuel et il ne sait pas d'où ça vient, ça il ne pouvait pas le faire remonter. De par les générations, et du coup, on avait quasiment oublié, si on parlait comme ça, sa parole. Là, il n'arrive pas à suivre. Le génie de Rabbi Akiva qui monte des montagnes sur les tagim de, d'accord, sur les tagim des lettres, là-dessus, mon cher Abouni ne suit pas. Il ne peut pas suivre. Sauf que cet halakha dont on parlait quand il était à l'école de Rabbi Akiva, cet halakha-là, c'était une halakha de Moshe Mishinaï. Donc, quelque part, ça a fait tilt, il s'est dit, ah oui, ça vient de chez moi. Donc il savait ce qui pouvait venir de chez lui, il savait l'aboutissement, donc il a su faire probablement le cheminement.
Mais c'est parce qu'il y a dit.
Hmm?
Parce que Rabbi Akiva l'a dit.
Rabbi Akiva a dit que c'était une halakha de Moshe Mishinaï.
Il ne l'a pas su tout de suite.
Mais non, mais ça veut dire que. Non, il a répondu à un élève, Rabbi Akiva. Il y a un élève qui a demandé d'où tu sais ça.
Ah oui.
Avec la chutzpah des élèves. Et Rabbi Akiva lui a dit, c'est la halakha de Moshe Mishinaï.
Et cette Torah chez le HB, elle a été transmise de Moshe à Yeshua, pas à d'autres.
Le vrai, les Skenim. Il a donné aux Skenim, les Skenim, l'Anviim, etc. Et puis vous avez ensuite les Zougot, ceux qui viennent par deux, Hillel, Shammai, etc. Et ensuite ça vient jusqu'à Rebbi, qui a mis les Mishnayot, qui a fabriqué le canon des Mishnayot. Il y a sûrement du bruit, mais l'idée, c'est que quand tu as un corpus, tu peux compter que s'il y a du bruit sur ce point-là, il n'y aura peut-être pas obligatoirement du bruit là. Et donc, par comparaison et en frottant les unes contre les autres, on va éliminer le bruit. Il y a certains endroits dans la Gemara où la Gemara, elle a deux versions. On a vu Ravashi. Avec qui j'ai vu Ravashi? Avec vous? Ce matin? Ravashi qui dit, ça va comme Rabbi aussi, et on lui dit, mais parce que tu as un problème de contradiction. Avec qui
j'ai fait ça?
C'est pas vous avec qui j'ai travaillé ce matin?
Megillah.
Avec Shissa. Gemara là-bas, Rabbi Yossi, il y a une contradiction. Ravashi, il a une contradiction entre deux enseignements de Rabbi Yehuda, pardon. Et dans l'un, il dit, ah ben, celui-là, il est, c'est Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda. Ben, moi, il dit, ça va pas, non? Parce que tu as une contradiction, alors tu balances, au lieu de Rabbi Yehuda, tu mets Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda. Ben, moi, il dit, non, c'est pas comme ça. Rashi lui-même, il est arrivé deux traditions. D'accord? Une qui disait que cet enseignement, il était, l'auteur en était Rabbi Yehuda. Les autres disaient que l'auteur était Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda, son fils, a priori. Et c'était équilibré. Alors Rashi dit, puisque si je dis que c'est Rabbi Yehuda, j'ai une contradiction, alors je vais dire, je vais donner plus de poids à l'autre version que j'ai aussi bien reçue, et dire, et moi je vais dire, bon, c'est ça la bonne version, parce que celle-là, elle nous met pas en contradiction. Donc ils avaient, il y a des moments où ils ont deux traditions. D'ailleurs, quand vous avez deux opinions, et un il sort et dit, ça c'est Gzera Shabbat. Et l'autre, il n'a pas la Gzera Shava. C'est toujours un problème. On se dit toujours, ok, une Gzera Shava, ça ne peut pas s'inventer. Gzera Shava, c'est qu'il y a deux mots, d'accord, et on a une tradition que ces deux mots, qui sont les mêmes, en gros, ou très semblables, à des endroits, dans des contextes différents, on les met ensemble, et on fait circuler le contexte de l'un dans la situation de l'autre, et vice-versa. Alors, puisque ça se transmet, ben, celui qui a la Gzera Shava, ben, qu'il la transmette à son copain, comme ça il l'aura aussi. Pourquoi il transmet pas? Il ne le transmet pas parce que l'autre ne peut pas le recevoir, parce que l'autre il a fait son plein, il a le plein. Disons qu'on sait qu'il y a 718 Gzerot Shavot dans le Shas, dans la Gemara. Là, lui il en a 718, alors. Il est plein, il ne peut pas accepter une nouvelle. Parce qu'il a fait déjà le plein de Gzera Shava, hein, et dans son plein, lui, celle-là, il n'y est pas. Donc il y a deux traditions, deux écoles. Dans cette école-là, il y a une Gzera Shava comme si, dans celle-là, on n'a pas cette Gzera Shava, on en a une autre. C'est un corps vivant, ça veut dire que, bon, les uns sont porteurs de ce virus, et les autres, de l'autre virus, ou de telle bactérie. On est tous.
Est-ce que ça aurait posé un problème de dire que Moshe est celui qui a reçu la Torah de la chair, qu'il a donc écrit.
Oui, il a écrit sur la dictée.
Et
oui.
Puis, c'est déjà énorme.
Oui, et c'est ce qu'il a fait.
Et qu'ensuite, ceux qui sont venus après,
mais ce qu'il a écrit, il l'a donné à chaque, il en a écrit 13 Sifrei Torah, donné un à chaque tribu et un qu'on a mis dans le Aaron avec les Luchot. Et puis ils se sont transmis ça et éventuellement on a fait des copies au fur et à mesure qu'on en a besoin pour étudier. Mais c'est pas ça qu'il a transmis. C'est pas Moshe qui transmet à Yoshua, etc. C'est pas le témoin d'une course de relais où il faut se passer le bâton.
Non, la question que je me posais, c'est est-ce que il était essentiel et obligatoire que Moshe soit également le receveur de la Torah?
Ah, chez Balpé. Oui, il fallait bien que quelqu'un la reçoive, non? Tu voulais en plus la vérité.
Donc il était impossible à l'esprit humain, à partir de la Torah écrite, qu'on puisse.
C'est pas des élucubrations. Certains disent que en vérité c'est à l'envers, c'est que c'est pas du tout que la Torah orale est un commentaire de la Torah écrite, c'est que la Torah écrite est un sédiment de la Torah orale. Il y a des sédiments, des éléments qui sont tombés et qui sont là. Bon, on va les chercher, on va dire, ah, ça c'est un sédiment auquel se rattache cette partie qui est encore vivante. Et c'est une partie pas morte, mais enfin, c'est difficile de dire que le texte est mort, mais un texte qui est écrit, il est mort. Il ne va pas bouger. Si tu décides que tu ne lui permets pas de bouger, d'accord, ça veut dire que. Pas question que ça bouge. C'est bien ce qu'on a essayé de faire. On essaye de faire en sorte que ça bouge pas, que le texte de la Torah ne bouge pas, même si en fait il a bien dû bouger, puisque par exemple les Sfaradim et les Ashkenazim, dans le texte il y a quelques petites différences. Mais c'est néanmoins la même Torah, simplement. Voilà, on va s'arrêter là.
Alors, j'ai eu de gros problèmes, mais j'ai eu mon ordinateur avec l'esprit.
Pas seulement le vôtre, l'ordinateur, le mien aussi, malheureusement. Ah. Je ne sais pas pourquoi. Ouais.
Bon. Merci, Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.